Et je vous propose de lire ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, un texte un peu long, un texte important. Du verset 1er au verset 47. Mais vous verrez, c'est un texte qui se lit rapidement. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples: « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et toi, tu retournes en Judée ?» Jésus répondit: « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit: « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent: « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque, celui qui croit en moi, vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit: « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie et lui dit: « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort ». Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il lui dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous de vivre de cette vérité. Amen. Et je vous invite à chanter au chant 244. Nous le chanterons en entier. Seigneur, qu'aujourd'hui ton évangile en tout lieu soit annoncé, qu'aujourd'hui rempli de joie, nous écoutions ton appel. Nous venons d'ouvrir la Bible, de lire l'évangile de vie, que tes paroles, que ces paroles deviennent maintenant paroles de vie. Pour chacun, chacune d'entre nous, qu'elles viennent toucher nos cœurs. Amen. qui précède Pâques, temps de la Passion, temps du carême, dit-on aussi parfois, j'ai voulu relire avec vous ce matin une des pages les plus humaines, pour moi peut-être les plus émouvantes des évangiles. Une de celles dont nous nous approchons, je pense, d'autant plus facilement qu'elle semble concerner chacun, chacune d'entre nous. Oui, peut-être il me paraît que c'est aussi dans chacune de nos maisons que se fait entendre cette parole. Celui, celle que tu aimes, est malade. Dans cette maison où Jésus aimait s'arrêter, la maladie et la mort a frappé Lazare, mais aussi ses deux sœurs, Marthe l'active et Marie la contemplative, comme on aime à les appeler. Ces deux femmes, je les aime bien, elles sont proches aussi, je crois, de nous, et c'est particulièrement avec elles deux, que je souhaite cheminer ce matin avec vous. Alors voilà que Lazare est mort. Pour Marthe et Marie, ça a été certainement l'angoisse, comme on dit, puis le choc, et puis un peu plus tard, son enterrement. Nous sommes tous des Marthe et des Marie, par définition, puisque nous sommes encore là. Nous sommes ceux qui en ont enterré d'autres, ceux qui ont vécu la mort, pour certains de près, peut-être, ou de loin pour d'autres qui sont plus jeunes, ce qui veut dire pas encore de près. Et c'est un moment important et incontournable de chacune de nos vies. Lazare est mort, nous dit le texte. Alors nous dirions peut-être aujourd'hui, il est décédé, il est parti, il nous a quittés, il a été rappelé, voire encore, il s'est endormi, ou que sais-je encore. Quand il s'agit de la mort, aujourd'hui, nous avons l'art d'utiliser les périphrases. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons toujours du mal, et particulièrement, je crois, dans notre fin de siècle, ou dans notre début de siècle plutôt, à employer le vocabulaire relatif à la mort. Comme si c'était une manière de la repousser, de la mettre un peu à distance, peut-être pour nous en protéger, nous en éloigner. Marthe et Marie, elles sont d'un autre temps, d'une autre époque, elles sont toutes proches de leur douleur, et l'une et l'autre, elles disent tout simplement « Lazare est mort ». Peut-être autrefois était-ce plus facile, peut-être que la mort était plus intégrée au quotidien, on vivait plus près de la nature, souvent à la campagne, entre les animaux et les plantes, les arbres, rythme naturel des saisons, des vendanges aux moissons. Peut-être c'est un pas qu'il nous reste à faire aujourd'hui, un pas qu'il nous faudrait doucement faire. Un être cher est mort, eh bien, c'est ainsi. Peut-être pourrions-nous apprendre à le dire aussi ainsi. Beaucoup de gens sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler. C'est l'usage ancestral, parfois encore en vigueur, mais ça se perd un peu. Et nous pouvons facilement imaginer ce qu'ils ont dit. Nous l'avons aussi nous-mêmes entendu. Mais pauvre, c'est difficile. Vous verrez, ça changera, ça passera. Peut-être est-ce bon à quelque chose, ce n'est peut-être pas complètement un hasard. Que veux-tu, on ne peut rien y changer. Je sais moi-même par expérience combien c'est dur. Ne te laisse pas aller, surtout. Je penserai à toi. Vous savez, toutes ces choses que nous avons peut-être déjà dites ou que d'autres nous ont dit, des paroles qui font chaud au cœur, des formules parfois un peu creuses, des pieuseries, parfois des maladresses, des mots tout simples, mais aussi des mots personnels et qui parfois nous touchent et nous font du bien. Et c'est avec ces consolations qui en sont et qui n'en sont pas toujours, avec ses consolateurs, que Marie est assise dans sa maison. Oui, Marie, elle est assise dans sa maison. Et c'est probablement, sans doute, tout ce dont elle est capable. C'est probablement, même peut-être ce matin-là, ce qu'il lui faut. Et nous comprenons peut-être fermer les fenêtres, baisser les rideaux, ne pas sortir. Et les autres, ceux qui viennent à la fois, ils sont les bienvenus, mais pas toujours. On en a un peu peur, on a envie d'être seul, comme dans une bulle pour vivre son chagrin. Marie, elle a besoin de protection, elle est dedans. Personne. Elle n'a envie de personne. Marthe, elle a appris que Jésus venait et elle est allée à sa rencontre. Marie, elle, est restée enfermée dans la maison, assise. Et pourtant, on lui a dit la même chose qu'à Marthe. Peut-être n'a-t-elle pas pu l'entendre. Peut-être est-elle dans l'incapacité d'entendre, d'ouvrir quoi que ce soit d'elle-même qui lui permettrait de sortir de cet enfermement. Son frère est mort depuis déjà quelques jours. Marie est sortie dehors, Marthe est restée dedans. Et voilà, nous le sentons peut-être pour l'avoir vécu avec d'autres ou avec nous-mêmes, cette maison de Marie. Cette maison, c'est un havre de paix, un refuge, une forteresse. Mais peut-être c'est aussi par moments une mémoire, et il faut faire attention que cette maison ne devienne pas elle aussi comme un tombeau, le tombeau du quotidien de Marie. Lazare a été enterré, Marie, elle est enfermée dans sa maison. Attention à ne pas s'enterrer. Et puis du coup, c'est comme un coup de trompette, et pourtant c'est dit tout doucement dans le texte, presque secrètement, nous dit le texte, secrètement, en réalité tout bas, le maître est là et il t'appelle. Et c'est Marthe qui est revenue dans cette maison, secrètement, et discrète comme à son habitude, après avoir vu Jésus, elle vient dire à Marie, il t'appelle. Et pour moi, c'est le premier miracle de ce texte. Le premier miracle, il est à chercher ailleurs qu'en la personne de Lazare. Il est là, tout simplement. C'est un miracle qu'on ne voit pas beaucoup, qui est tout discret, tout secret, mais quand même. Marie entend sa sœur ce matin-là et elle se lève immédiatement. Marthe n'était pas mandatée pour ce message, mais il y a peut-être des moments où une sœur sait dire ce qu'il faut à sa sœur. Peut-être qu'elle a entendu, Marthe, et nous y reviendrons, le message de Jésus, et qu'elle peut revenir voir sa sœur et lui dire, « Il t'appelle. » Marie se lève alors et sort de sa maison. Elle sort d'elle-même, elle sort de ce qui la tenait enfermée. Une parole extérieure, un appel, et voilà qu'elle est remise en route, elle est rendue à une vie possible, à une relation avec les autres qui sont dehors, à une relation en tout cas en dehors de sa maison, à une relation avec les autres. Je crois que la mort fait peur et qu'on essaye souvent de l'occulter. On a même du mal à la dire, simplement avec des mots, et à l'affronter, même parfois dans le regard des autres. Et nombreuses sont les personnes qui s'enferment, qui se murent et qui forment comme des remparts autour d'elles après le décès d'un proche. Vous savez, l'œil, La parole du voisin, de l'ami, du parent sont parfois difficiles à accepter. Il renvoie trop à ce qui s'est passé et il est tellement, tellement naturel d'essayer de l'éviter. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appel de Marthe vers Marie, de Jésus, pourrait-on dire, via Marthe vers Marie? Comment se fait-il qu'elle se lève, tout simplement? Serait-il possible d'entendre et de vivre cela dans tout deuil? Et je parle aussi des petits deuils, parce qu'il y a effectivement la mort, mais nous traversons chacun, chacune dans nos vies d'autres deuils, des petits deuils, des ruptures, des blessures, ce sont aussi des petits deuils. Serait-il possible d'entendre cela, de vivre cela dans toute souffrance? Alors je suis convaincue, et je voudrais redire ce matin fort, que aucun deuil, aucune tristesse, aucune souffrance n'est, pour ainsi dire, imaginée, voulue, programmée, mise en scène, envoyée par Dieu. Ou qu'elle devient, comme il a été dit, punition de Dieu. Autant, je suis convaincue, et c'est important de le redire, je crois que toute expérience de vie, quelle qu'elle soit, même l'expérience de mort, peut devenir un appel à la vie, et que toute expérience de mort est aussi fondatrice, et que peut-être l'équilibre de nos vies repose en grande partie sur la manière dont nous allons pouvoir vivre cet équilibre et vivre cette expérience de mort, et spécialement celle de nos proches, parce que c'est bien sûr celle qui nous touche le plus près. Le maître est là et il t'appelle. Et si ce n'est pas Marthe qui en a l'intuition et qui vient me chercher, d'une façon ou d'une autre, ce sera peut-être juste mon propre cœur qui viendra me le dire. Il nous faut nous mettre à l'écoute de ce qui nous tire vers la vie. Vous savez, le Deutéronome le dit bien, « Choisis la vie afin que tu vives. » Même si cela bouleverse, même si cela déplace, même si cela renverse. Et voilà, je crois, une des questions encore centrales qui nous est posée ce matin par ce texte. Savoir si nous sommes porteurs de vie et peut-être comment nous sommes porteurs de vie. Alors Bertolt Brecht, que je cite ici, a écrit cela. Il y a bien des façons de tuer. On peut vous plonger un couteau dans le ventre ou vous priver de pain. Refuser de vous guérir d'une maladie. Vous fourrez dans un logement insalubre, vous éreintez au travail, on pourrait allonger la liste, on tue par absence de relation, par rétention du pardon, par pénurie d'amour, par absence d'intérêt. Je crois que quelque chose dans ce texte nous fait passer du côté de la vie. Alors regardons juste la deuxième sœur, que se passe-t-il pour elle? La première est sortie de sa maison. Mais que se passe-t-il pour la seconde? Marthe n'était pas restée assise, elle était d'emblée partie voir Jésus. Une chance pour elle de pouvoir le faire, tout le monde ne peut pas le faire. Mais elle avait quelque chose qui lui tenait à cœur. Vous savez, ce reproche qui était là, bien vissé dans son ventre, comme une espèce de désillusion, une déception qu'elle dit sans préambule, et que d'ailleurs dira Marie aussi dès qu'elle verra Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » L'absence de celui qu'on appelle Seigneur, l'absence de Dieu, je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu, que je vis parfois, que nous ne sommes pas des cas isolés, et que souvent, c'est quelque chose qui nous est renvoyé lorsque les gens savent, apprennent que nous sommes croyants. Si seulement Dieu avait été là, si ton Dieu, si votre Dieu existait, alors il ne permettrait pas. Oh, tout ce qu'il ne permettrait pas. On vous l'a déjà dit, je crois qu'on vous le redira encore. Et peut-être vous le redirez à vous-même. Mais voilà, ce matin, il s'agit de Marthe et de Marie. Et ce sont elles qui font ce reproche à Jésus, « Tu n'étais pas là ». Elles parlent à Jésus en « tu ». Quand on parle à Dieu en « tu », je crois que peut-être les choses sont un peu différentes. À chaque fois qu'on peut lui crier son doute, son incompréhension, son amertume, eh bien il n'est plus déjà tout à fait inexistant, il est déjà quelque part un peu là. Marthe dit sa déception et elle dit en même temps sa confiance parce qu'elle lui parle. Ce n'est pas tout à fait toujours antinomique. Parler à Dieu, c'est prendre le risque de s'exposer à un dialogue, à des questions, à un échange. Et je crois que c'est totalement différent de si on discute sur le sens, vous savez, lorsqu'on disserte sur Dieu, son absence, sa présence, son sens. Là, on n'est pas dans la relation. Dans notre texte ce matin, nous sommes dans la relation. Et voilà que Dieu, directement, entend le reproche et Jésus établit le dialogue avec Marthe. « Ton frère ressuscitera », lui dit-il. Et Marthe, vous avez vu, répond « je sais », comme quelque chose qu'elle a intégré, qu'elle croit, elle sait. Et pourtant, elle reproche. Elle sait, et pourtant cela ne lui suffit pas. Elle a bien appris ce qu'on lui a appris, son catéchisme, pourrait-on dire. Elle ne l'a pas oublié. Elle l'a intégré à toute sa façon de voir sa vie et le monde. Et sans aucun doute, elle le croit. Mais Jésus lui répond, « C'est bien Marthe. » Mais ce qu'il lui répond, c'est « Je suis ». Il lui répond « Je suis la résurrection ». Il décale cette réponse de Marthe. C'est un peu comme s'il lui disait « Tu sais Marthe, mais l'essentiel, il te reste à le découvrir. Moi, je suis la résurrection ». La réponse de Jésus, elle est extraordinairement importante parce qu'elle vient décaler. Elle vient au-devant de ce regret amer de Marthe. Jésus vient corriger la foi de Marthe. Il la fait passer de la croyance en la résurrection future des morts à la foi en celui qui est maintenant la résurrection et la vie. Et c'est un passage qui n'est pas négligeable. Le Christ l'a fait passer maintenant de la mort à la vie. Il trépassera, mais il ne mourra jamais. L'éternité commence aujourd'hui. Jésus ne vient pas supprimer la mort, il déploie une vie possible face à cette mort, une vie placée sous les signes de la promesse. Et Marthe, elle est alors invitée à comprendre que le véritable défi de la mort n'est pas là où elle le pense. Jésus l'a fait passer du souci du trépas d'autrui à la question autrement plus urgente de sa propre vie et de sa propre mort. « Crois-tu cela ?» lui demande-t-il. Le défi ici, c'est un défi lancé à notre foi, à notre mode d'être et à notre vie avec autrui. Je crois que le seul antidote à la mort, c'est l'intensité de notre vie, l'intensité d'une présence à Dieu, à soi et aux autres. Je suis la résurrection et la vie, et il l'appelle à lui. Et pour elle-même, elle fera l'expérience de ce qu'elle va faire tout à l'heure pour sa sœur. C'est ça qui va lui permettre d'aller chercher sa sœur, de lui dire « il t'appelle » et de la sortir de son enfermement. Alors, il n'appelle pas seulement Marthe et Marie, enfermées dans leur maison, dans leur chagrin. Il appelle pas seulement Marthe et Marie, enfermées dans leur conviction, leur savoir sur Dieu. Elles ont l'une ou l'autre un bout de chemin à faire, chacune dans leur direction. Mais je crois qu'il nous appelle chacun, chacune, ce matin aussi. Je suis la résurrection et la vie. Je crois que ce n'est pas une doctrine, un savoir, une dogmatique. C'est une personne, une rencontre, une expérience. C'est pourquoi la résurrection n'est pas que celle dont parlait Marthe, celle du dernier jour, mais elle est aussi celle dont parle Jésus, celle d'aujourd'hui. Alors aucun, je crois, je suis même sûre, qu'aucun de ceux que j'ai pleuré, comme aucun de ceux que je pleurerai demain, ne sortiront de la tombe comme Lazare. Peut-être à quoi bon d'ailleurs, si l'on y réfléchit vraiment. Les résurrections que je vis, celles que je vivrai, ne sont pas à l'image de la résurrection de Lazare, mais elles sont à l'image de la sortie de Marie de son enfermement et de son chagrin. Elles sont à l'image de la sortie de Marthe de ses certitudes et de ses enfermements. Il est là et il nous appelle. Il appelle les Marthe et les Marie que nous sommes. Et chaque fois que je sortirai du tombeau de l'indifférence, de la tristesse, de la peur, de la méchanceté, du non-sens, ce sera une petite résurrection. Petite, toute petite, mais vraie. Amen.